Mesdames et messieurs, bonjour. Patara, le débat citoyen de Radio Ndekeluka ce jour consacré au décryptage du nouveau gouvernement de Firmin Grébada, un gouvernement dit inclusif dévoilé vendredi soir à Bangui. En effet, le nouveau gouvernement centrafricain arrêté par décret présidentiel comprend davantage de ministères pour les groupes armés signataires de l'accord de Khartoum qui avaient réclamé un remaniement après l'annonce début mars d'un précédent cabinet qu'il jugeait insuffisamment inclusif. Pas de changement majeur, sinon quatre membres des groupes armés signataires de l'accord de paix font leur entrée au gouvernement. Sans surprise, le gouvernement Grébada 2, composé de 39 membres au lieu de 36 précédemment, offre au pouvoir de Bangui le contrôle des ministères régaliens tels que plan économie, finances, défense, mines, les affaires étrangères, la sécurité publique, la santé et la justice où les ministres gardent leur portefeuille. Une entrée notable est celle de Martin Koumtamadi, alias Abdoulaye Miskine du FDPC. Pour dénoncer la composition du premier gouvernement, ses partisans avaient perturbé durant plusieurs jours les échanges commerciaux le long du corridor Bangui-Garamboulaye vers le Cameroun. Retour aussi de Hervé Gontran-Djono Abba, absent du gouvernement Grébada 1, qui retrouve sa place au développement de l'énergie. Gilbert Tomodeya du MLCJ est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec les groupes armés. D'autres personnalités de groupes armés, dont Gismala Hamza et Amit Idriss du FPRC, ainsi que Maxime Okom et Dieudonné Ndomaté des Anti-Balaka, demeurent au sein du nouveau gouvernement de M. Grébada. Par ailleurs, Amidou Bi Alio de l'Unité pour la paix en Centrafrique UPC est nommé ministre de l'élevage et de la santé animale en remplacement de Souleymane Daouda, également de l'UPC, lequel devient ministre de l'enseignement technique et de l'alphabétisation. Si les groupes armés n'ont pas encore réagi à ce remaniement ministériel, les partis politiques qui ont décidé de retirer leurs membres du gouvernement, y compris la société civile, sont les gros perdants de ce changement âprement négocié à Addis Abeba. Question: que vous inspire ce nouveau gouvernement où groupes armés et pouvoirs publics semblent bien servis? Pour en parler, je reçois autour de la table Maître Timoléon Kokongo, secrétaire général et porte-parole du parti Alliance pour la démocratie et le progrès, en abrégé ADP, personnalité politique. Maître Timoléon Kokongo, bonjour.
Bonjour, Hippolyte.
Monsieur Albert Mbaya, journaliste indépendant. Monsieur Albert Mbaya, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Daniel Zewé, personnalité politique, observateur indépendant de la vie publique en Centrafrique, ancien journaliste. Monsieur Daniel Zewé, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Didier Martial Pabondi, enseignant au département de la science de l'information et de communication à l'université de Bangui, journaliste. Monsieur Didier Martial Pabondi, bonjour.
Bonjour.
Kiremi Yamenenti est notre technicien du jour. Je suis Hippolyte Marbois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, Maître Timoléon Kokongo. Un gouvernement mis en place le 3 mars, débouté par les groupes armés, bloquant le processus politique en Centrafrique. La communauté internationale est intervenue pour convoquer les acteurs à Addis Abeba. Nous avons suivi donc toutes les tractations ayant conduit à la mise en place de ce gouvernement. Un remaniement ministériel a eu lieu. Que vous inspire tout ce parcours?
Débouté, je pense que pour moi, juriste et avocat, je crois que ce terme est un peu trop fort, juridiquement parlant, parce qu'il n'y a qu'un juge qui tranche, qui peut débouter dans un cadre de procédure, de demande. Bon,
en République centrafricaine, les groupes armés semblent être plus forts aujourd'hui
que
tout le monde.
Ça dit bien, mais je pense qu'ils ont contesté ce gouvernement qui a été mis en place. Et comme c'est prévu, l'accord signé, donc en cas de contestation, normalement, les affrontements armés étaient interdits. La violence était interdite. Sur quelques marge, ça n'a pas été suivi. On va en parler tout à l'heure concernant les éléments de Abdoulaye Miskine qui ont créé un peu la zizanie là-bas sur le corridor. Mais je pense que c'est normal et je pense que du côté du gouvernement, c'est aussi de la stratégie. Ils ont bien signé l'accord, ils ont essayé de pousser les bouchons, ils ont accepté, aujourd'hui ils ont revisé. Ça rentre dans la stratégie de communication, de dialogue, chacun veut obtenir le plus possible.
Et donc, pour vous, c'est normal?
C'est normal, c'est l'exercice normal d'un cadre de dialogue.
Cher confrère Albert Baya, est-ce que vous êtes vie.
Confrère Hippolyte, je réagis comme tout Centrafricain devant ce que je considère comme une calamité. C'est une calamité qui s'abat sur la RCA. On peut dire ce qu'on veut, mais on semble ne pas prendre en compte que vous avez en face de vous des gens qui n'ont jamais tenu parole depuis bientôt une dizaine d'années. Il ne faut pas oublier que les mêmes ont signé un premier accord, si je ne me trompe pas, au mois de février 2007 à Sirte. Kadhafi était encore vivant, c'est lui qui avait initié cette rencontre-là entre Bozizé et l'FDR à l'époque. Ils ont commencé à signer là-bas. Ensuite, au mois d'avril suivant, ils ont signé à Birao. Il y a eu Libreville. Et la série, la batterie des accords qui ont été signés, je rappelle au passage celui de 2017 à Saint-Edidio. Tout cela n'a jamais été respecté.
Khartoum a été le 8e
accord. Mais oui, c'est le 8e. Et si vous pensez qu'en plongeant le diable dans l'eau bénite, vous en faites un saint, vous vous trompez. Ce qui vient de se passer à Addis Abeba, c'est de la grosse comédie. Vous imaginez que les gens n'étaient pas au gouvernement, ils ont sorti les crocs et les ongles, et paf, les y voilà. Ils sont au gouvernement. Une question bête, est-ce que la violence va s'arrêter?
C'est là toute la question et
mais
ça
voilà.
Fera justement l'objet de
donc c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que ça c'est une grossière mise en scène où la RCA est prise en otage. Tous les gens qu'on a massacrés c'était juste pour entrer au gouvernement. Comme si on ne peut bâtir un pays qu'en étant ministre. Mais si tel est le cas, mais tant mieux. Bonjour. Mais moi je suis tellement sceptique que j'attends de voir les changements que cela va apporter avant de croire que nous avons affaire à des gens qui décident vraiment que ce pays fonctionne. Sinon, en tout cas, je ne m'aligne pas. Je dis, mais dis donc, mais où est-ce que nous allons? Notre pays est en train d'aller dans le gouffre, c'est cela.
Un scepticisme justifié par plusieurs accords non tenus.
Jamais tenus, et ce n'est pas maintenant que les gens, il ne faut pas s'en faire. C'est parce que vous avez pris 3-4 que vous avez mis au gouvernement que les appétits d'argent et de postes vont s'arrêter, vous trompez.
Merci à vous, M. Albert Mbaya, M. Daniel Zewé, vous avez suivi les deux premiers intervenants qui, voilà, c'est vrai que pour Maître Tshimolenko Kongo, c'était naturel d'observer tout ce parcours-là afin d'en arriver aujourd'hui à ce remaniement ministériel. Mais il y a M. Albert Mbaya qui est resté sceptique au motif qu'il y a eu déjà plusieurs accords dans ce pays et qui n'ont jamais été tenus par les acteurs de la crise. Quelle est votre lecture de la situation?
Vous savez, cher Hippolyte, j'ai toujours été guidé par un principe simple. Et je pense que ce principe, c'est le principe des hommes qui tiennent à leur honneur. C'est toujours mieux de mourir debout que de vivre à genoux. Battez-vous, libre à l'adversaire de vous tuer pendant que vous êtes debout dans cette bataille, que de vous mettre à genoux jusqu'à ce que vous perdiez tout sens d'honneur et qu'on finisse éventuellement par vous exécuter comme un pauvre cochon qui n'a plus cette propriété qui devait éventuellement le caractériser. Je ne suis pas de ceux qui estiment que ce gouvernement qui vient d'être mis en place est un gouvernement qui est issu, n'est-ce pas, d'un mécanisme normal, qui est issu éventuellement de ce qu'on appelle un processus qui devait éventuellement aboutir de manière normale à ce genre de situation. Nous sommes depuis hier passés de la phase de centrafricains à une phase où nous sommes considérés aux yeux du monde entier comme étant ceux qui sont des as de la bêtise politique. Parce qu'on ne peut pas admettre dans un État, fût-il faible, sans armée, même si on n'avait pas d'armée, de faire venir quelqu'un comme Abdoulaye Miskine, qui a pris 3 jours pour insulter, narguer, barricader la route, empêcher le peuple de vivre. Depuis 48 heures, vous êtes journaliste, vous allez constater la flambée des prix. Au jour d'aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Vous ne retrouvez pas sur toute l'étendue du territoire centrafricain un petit produit. Je vous donne un exemple. Allez dans les supermarchés, demandez tout simplement à ce qu'on puisse vous donner le thé. Ça va être difficile. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix à cause d'Abdoulaye Miskine. Et c'est ce Abdoulaye Miskine qu'on prendra pour intégrer dans un gouvernement en 26e position en termes de préséance devant certains dignes fils du pays. Non, soyons sérieux.
Et là, la responsabilité incombe à qui? À Abdoulaye Miskine ou bien aux voix publiques qui l'ont admis dans ce gouvernement?
Sans tenir la langue de bois, ce n'est pas Abdoulaye Miskine qui a signé son décret pour être au gouvernement. La réponse est claire. Je ne tergiverse pas autour.
Merci à vous, M. Daniel Zewé, M. Didier Martial Pabandi. Aujourd'hui, c'est vrai que les tractations se sont déroulées et ont abouti à ce remaniement ministériel alors qu'on a déjà eu un premier gouvernement le 3 mars avec une équipe de 36 membres. Aujourd'hui, voilà, à cause du blocage politique imposé par les acteurs de la crise, on en arrive à un changement. Est-ce que pour vous aussi, c'est naturel qu'on en arrive là ou bien ça dépasse l'attendement?
Oui, Hippolyte, je pense que bon, les uns et les autres ont donné des avis. Moi, ce que je voulais dire, c'est d'abord sur le principe et sur les faits. Je commencerai par le principe. Le principe, pour moi, le fait d'aller à Addis Abeba, négocier, signer des accords, aller sur un autre territoire, ce n'est pas un fait aujourd'hui. Les relations internationales ont toujours montré Quand il y avait des problèmes au Zaïre de Mobutu, il s'est déplacé en Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, nous avons bien vu qu'avec Guillaume Soro, qui est d'ailleurs entre le gouvernement jusqu'à être président de l'Assemblée. En Colombie, les FARC aujourd'hui, voilà. Donc pour moi, le principe est clair. Quand il y a des problèmes, il y a les instances internationales qui existent pour intervenir dans les pays. Ça, je parle des principes pour intervenir dans les pays afin de ramener la paix, ramener les gens sur la table et discuter. Parce que j'entends souvent, nous, Centrafricains, on dit oui, on n'a pas besoin de dépasser les problèmes, mais ça, c'est un fait. Nous existons parce que nous appartenons à des instances sous-régionales, internationales, et auxquelles nous devons nous soumettre et aussi faire fonctionner. Parce que voilà. Sur les faits, je pense que le gouvernement lui-même, bon, 39 ministres, nous avons bien vu, il y a une part belle aux rebelles. Ils en ont eu quand même pas mal, une douzaine, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est une première. Les deux tiers du gouvernement est composé des rebelles. La question, c'est de savoir, est-ce que nous pouvons leur faire confiance? Moi, je dirais oui et non, face au groupe rebelle. Déjà, non, je commencerai par là parce que, comme a dit Albert Mbaya, beaucoup, ils savent qu'à l'issue de ça, ils vont avoir quelque chose, ils vont avoir le pouvoir, tout et tout. Ils l'ont obtenu. Maintenant, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. C'est là où je dis, voilà, l'État, c'est un mécanisme. On ne peut pas indéfiniment le défier. Tôt ou tard, l'État va prendre sa marche. Et j'ai confiance en ça. Nous sommes un État fragile, tout le monde le dit. Mais ce gouvernement, c'est complètement extra-légal, complètement extra-constitutionnel, complètement extra-judiciaire. C'est une première, je dirais, dans le monde. Donc ça, c'est un avis.
Comme il est extra à tout ce qui est légal, ça vaut vraiment la peine de l'avoir, de l'asseoir.
Je voulais justement atterrir avec cette chute-là que vous êtes en train d'évoquer. Le principe, et je pense que l'envie, la détermination, que ce soit de la communauté internationale, que ce soit du gouvernement, du président de la République, que ce soit des groupes armés, ça vaut la peine parce que la paix n'a pas de prix, dit-on. C'est pour ça que j'y crois un tout petit peu. J'ai dit tous ces efforts, au moins, ça peut prouver que bon, les gens vont dire oui pour une fois. Et là, ils n'auront plus de belles raisons hein, pour dire quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que bon, les quelques groupes armés, on a vu, il y a 3R et Abdoulaye Miskine qui ont contesté, les autres, ils ont écrit et puis ils ont suivi quand même le process, comme a dit Maître Kokongo. Donc, il y a quand même un peu d'espoir. Je pense que c'est quand même un accord du début d'espoir. Donc, nous allons voir comment ça va évoluer.
Et puis, Khartoum voilà. A suscité cet espoir et a dessus très peu de jours après. Comme vous le dites, hein, on attend de voir. Je reviens pour vous, Maître Timoléon Kokongo. Aujourd'hui, hein, quand on suit M. Pabandi, il a dit que ce gouvernement, il est extra-constitutionnel, extra-judiciaire, oui, voilà, etc. Oui. Tout sauf ce qui est légal. D'aucuns disent aussi qu'Addis Abeba n'a fait que légitimer le statut de groupes armés en Centrafrique. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Non, ce n'est pas Addis Abeba qui a légitimé le statut des rebelles. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais je reste dans mon domaine. Hein. Je suis juriste, je suis avocat, et bon, je fais effectivement de la politique.
Ouais.
Quand il y a un accord qui a été signé quelque part, moi je pense que je m'engage là-dedans en tant que juriste, en tant qu'avocat à fond. Et je dis que le cadre qui sert ici, on peut dire beaucoup de choses. Ou bien on contestait Khartoum, ça a été adopté. Et les articles sont là. Il y a au moins une quarantaine d'articles qui constituent le document principal et il y a des annexes. Ont été adoptés. Ici, la fois dernière, on disait que non, ça a une valeur supra. Non, ça n'a pas une valeur supra-constitutionnelle. C'est un compromis politique. Dans le cadre légal, ça a été accepté par le président de la République, signé. Je crois que personne, ni Bendunga qui était là, avec qui on discutait, avait promis de saisir la Cour constitutionnelle. Il ne l'a pas fait jusqu'à ce jour, à ma connaissance.
On
personne
ne sait
n'a
pas.
Saisi.
On voilà. ne sait pas. Peut-être que voilà. c'est fait et que ce n'est pas rendu public.
Et ni à l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, personne n'a levé le mandat pour dire il faut nous amener cet accord, on va compter ceci, cela. Donc, ça veut dire qu'on a accepté ce cadre de compromis entre le gouvernement et les rebelles pour ramener la paix en RCA. C'est le cadre. Et donc, je dis que, rebelle ou pas rebelle, bon, des fois, on dit que ce sont des étrangers, des mercenaires, mais toujours est-il qu'il y a des Centrafricains, Abdoulaye Miskine était Centrafricain, je crois que Sayo aussi, il y a plusieurs qui sont Centrafricains, qui ont pris les armes. On a pensé que le meilleur moyen, avec la communauté internationale dont on fait intégralement partie. La MINUSCA est là, qui nous aide, l'Union africaine est là. Nous sommes obligés de travailler avec ces gens. On a trouvé un chemin. Certainement, il y avait des propositions d'ailleurs. Je l'ai dit sur ce plateau-là, le gouvernement est allé à ce dialogue-là. Et je pense qu'on est sorti beaucoup plus vainqueur qu'on ne le voulait.
Cette entrée des groupes rebelles, vous avez suivi M. Nzewe tout à l'heure qui faisait allusion à Abdoulaye Miskine, le leader du FDPC qui a bloqué le corridor économique pendant plusieurs jours et qui aujourd'hui est admis au gouvernement. Après avoir fait souffrir le peuple centrafricain, il revient aujourd'hui à charge pour pouvoir, je ne sais pas, gérer quoi dans cette république.
Bon, là-dessus, je pense que la communauté internationale n'a pas joué son rôle comme il se doit, parce que c'est écrit noir et blanc dans cet accord que la violence, sous quelque forme que ce soit, était proscrite. Et la MINUSCA est chargée de devoir remettre les pendules à l'heure au cas où il y a des déviations, il y a des cas de violation. Et concernant ce qui s'est passé effectivement sur le corridor, les éléments d'Abdoulaye Miskine, personne, ni MINUSCA, ni personne n'a levé le mandat. On les a laissés faire, ils ont bloqué, ils laissaient passer de tous les côtés. Moi, je pense qu'il y a eu un manque à ce niveau. Mais le statut des rebelles, je réponds à la question, c'est maintenant la signature. Ou bien on remet en cause cet accord, ou l'accord va nous servir de cadre désormais de travail. Ce n'est que ça. On ne peut pas inventer. Et c'est un texte de loi, je pense.
Oui, monsieur, c'est un texte de loi désormais. Oui, je vois, monsieur.
Excusez-moi, mais ma réponse est formelle, juridique, c'est à ce niveau-là.
Merci.
Parce que si on sort de ce cadre-là, à mon avis,
il y a monsieur qui voudrait rebondir.
Écoutez, Hippolyte, je pense que vraiment, la RCA est en train d'avancer à l'envers. Premièrement, nous avons eu ce qu'on appelle des consultations populaires à la base, où le peuple centrafricain, qui reste souverain, parce que le principe de la démocratie aurait souhaité que le désidérata du peuple puisse être pris en compte dans toute sa rigueur. Lors des consultations populaires à la base, le peuple a déclaré clairement qu'il n'était point question de responsabiliser tous ceux qui étaient considérés comme étant des rebelles. Nous avons le document de base que nous avons compilé et après le Forum national de Bangui s'est tenu et le 11 mai 2015, tout a été validé. Et le peuple a décidé à ce que l'exécutif puisse fonctionner sur la base de toutes les recommandations qui ont été édictées dans ce document qui éventuellement a été cité de référence lors du déplacement de Khartoum. Lorsque l'exécutif faisait le déplacement de Khartoum, c'était devenu un credo. Tous ceux qui allaient à Khartoum étaient en train de dire qu'il ne faut pas aller en dehors des recommandations du Forum national de Bangui, il ne faut pas aller en dehors de ce qu'on appelle la constitution de notre pays. Malheureusement, nous avons constaté que contrairement aux recommandations du Forum national de Bangui, curieusement, il y a eu l'entrée de certains rebelles au sein du gouvernement. Et encore là, qu'est-ce qui se passe? C'est une manière de dire tout simplement que nous primons ce qu'on appelle les casses. Lorsque Abdoulaye Miskine n'a pas été retenu lors du gouvernement Grébada 1, il fait sortir ses éléments sur la voie, il barre la voie. Est-ce que vous pensez que le fait de barricader la route en tant que tel pour empêcher tout un peuple de se nourrir, ce n'est pas ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité décrit crime dans le statut... Oui, non, c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité décrit par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ça veut dire que le peuple centrafricain peut se saisir de la manière avec laquelle il a été bloqué, il a été empêché de se nourrir. Il a été empêché ne serait-ce d'avoir de l'eau qui devait venir du côté du Cameroun pendant sensiblement presque une semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. Ça, le peuple peut se saisir de cette situation. Si on est dans un État qui se veut responsable, une plainte devait être déposée devant la Cour pénale internationale, une action devait être intentée contre M. Abdoulaye Miskine. Et c'est ce genre de personne qu'on va nommer au gouvernement, comme étant ministre maintenant. Le bourreau du peuple devient le patron du peuple.
Et pendant
le paradoxe. Et ici, autour de cette table, on veut me faire avaler, moi, que je dois accepter le principe selon lequel c'est tout à fait normal. Je voudrais rebondir sur une question trop simple. Lorsque vous posez la question, la manière avec laquelle le gouvernement a été constitué et de dire si les groupes armés sont légiférés. Je dis tout simplement que mais le décret a tout dit. Lorsqu'on met en place un ministère délégué chargé de relations avec les groupes armés, ça veut dire tout simplement que les groupes armés sont institutionnalisés.
Justement, j'ai une question dans ce sens.
C'est d'une gravité rare.
Ouais,
on en revient, mais je tiens à tirer la sonnette d'alarme que c'est d'une gravité rare. L'intention cachée derrière, ça veut dire tout simplement que les groupes armés ne vont jamais disparaître dans ce pays et on va vivre avec les groupes armés de manière indéfinie.
C'est ce que ça veut dire.
Et il faudrait absolument qu'un ministre chargé de relations avec les groupes armés puisse siéger au niveau du gouvernement pour dire tous les jours au gouvernement, écoutez, les rebelles disent qu'il ne faudrait pas faire ceci, les rebelles souhaite avancer sur tel point et tout ça, mais c'est une aberration. Merci. C'est une extrême gravité.
Merci à vous, monsieur Daniel Zewé. Justement, pendant que nous déroulons cette émission, nous recevons une déclaration du FDPC qui dit que son leader ne va pas siéger à ce gouvernement. Nous le disons de cette manière-là pour que le public soit au même niveau d'information que nous. Patara, c'est l'émission de Radio Ndekelou qui a consacré aujourd'hui au décryptage du gouvernement de Firmin Gribada, un gouvernement dit inclusif, dévoilé
le vendredi soir en République centrafricaine. Monsieur Didier Martial Pobondi, vous êtes enseignant au département de la science de l'information et de communication à l'université de Bangui. À travers ce gouvernement qui donne aujourd'hui pouvoir aux groupes armés, on peut finalement dire que le parcours académique offre-t-il encore des opportunités pour accéder à des postes de responsabilité dans ce pays?
J'ai l'habitude souvent, Hippolyte, de surprendre les gens par mes réponses parce que pour moi, le poste de ministre n'est pas en soi un poste de responsabilité. Ça, c'est ma définition. Je vais dire pourquoi. Le ministre, certes, il engage l'État, mais cette responsabilité est limitée par les limites du Conseil des ministres et du chef de l'État. Les postes de responsabilité, selon moi, doivent respecter le principe du statut de la fonction publique. Le poste de ministre, pour moi, est d'abord un poste politique. Ça, nous devons le savoir et nous devons le dire. Ça, je l'ai souligné à plusieurs reprises à mes étudiants. Je fais une petite virgule en rappelant mon soutien, non pas aux jeunes du CNJ, qui avaient manifesté d'ailleurs avec leur diplôme dans les brouettes. Mon soutien, c'était seulement leur action, mais pas sur les faits. Parce que enfin, les faits, c'est qu'ils voulaient aussi des postes de responsabilité. Je pense que dans la vie, on est d'abord jeune, on apprend, on finit d'apprendre, on a un diplôme, on commence à travailler petit à petit pour avancer. Et c'est ça qui manque dans ce pays. On aime bien commencer à conduire l'avion avant de conduire un vélo, on aime bien commencer à marcher d'abord sur les deux pieds avant de marcher à quatre pattes. Donc, pour moi, le parcours académique reste toujours une opportunité pour les jeunes, pour la simple raison que le poste ministériel...
Ça doit rester même l'idéal.
Exactement, n'importe qui peut devenir ministre, ça ce n'est pas le problème, mais en réalité le ministre, ce n'est pas lui qui fait tout le travail dans les cabinets. Il y a le secrétaire particulier, l'attaché de cabinet, le directeur de cabinet, le chef de mission. Cela, tu ne peux pas ne pas prendre un intellectuel, quelqu'un qui a été à l'université, qui sait rédiger un discours, qui sait voir un peu les côtés juridiques des choses, qui sait administrer, qui sait gérer les ressources humaines. Donc là aujourd'hui, il y a deux volets et je comprends aujourd'hui, mais c'est vrai, le vrai problème qui se pose est que de plus en plus, c'est vrai, on donne du gage aux groupes armés. C'est l'impression que les gens ont. Et pour dire, en passant sur ce communiqué qu'Abdoulaye Miskine vient de faire, je pense qu'il y en a un peu marre, quoi. Parce que à chaque fois, si on doit refaire le monde à un moment donné, non.
Mais donc, à chaud, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça montre qu'il faut encore avoir un crépadatoire.
En lisant le communiqué est clair. Il félicite d'abord, en fait, dans un premier temps, ils ont pris acte de la nomination. Il y a une phrase là où il explique bien que a néanmoins décidé d'accepter.
Enfin, lisez le dernier paragraphe. Je peux le lire. Hein. Le FDPC n'a jamais
réclamé
un poste ministériel pour son président et celui-ci n'entend pas participer personnellement au gouvernement.
Je vais dire deux choses. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Sollicité par le président de la République et son premier ministre pour qu'il envoie des représentants au gouvernement, le FDPC a néanmoins décidé d'accepter. Et ceci pour... peser, machin, et à la fin, il sort cette phrase. Donc finalement, on accepte et encore...
Non, il dit qu'il a envoyé une liste, mais son nom ne figurait pas sur la liste. Lui, Abdoulaye Miskine.
Mais c'est le même problème, maître.
Il refuse que le chef de l'État et le Premier ministre décident que lui, personnellement, il veut qu'on désigne ses représentants
un autre membre
qui sont sur la liste que lui, il a envoyé,
maître,
pas lui personnellement.
Justement, je finis, Daniel.
C'est votre nom qui est désigné.
Daniel, je me permets, ça c'est un vrai problème. Je profite de votre honte pour dire à toute la population sud-africaine et à tous les hommes politiques que nous devons arrêter ce cirque. Pour moi, c'est du cinéma. En fait, les gens prennent l'État comme un jeu où on envoie une liste après. Non, même les hommes politiques l'ont fait. Non, ce n'est pas la liste qu'on a envoyée. Non, je ne veux pas aller au gouvernement. Mais qu'ils arrêtent, qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils y vont même pas. Pourquoi ils vont à Addis Abeba? En réalité, la réunion d'Addis Abeba, c'est une réunion ministérielle pour partager les postes ministériels. Soyons sérieux. Puisqu'il n'y avait pas d'autres cas, en fait, il n'y avait pas de violation flagrante de tous les accords, je ne sais pas, les 41 articles. Donc, Hippolyte, je veux embrayer en disant que faut que les autres groupes arrêtent. On envoie sinon. Vous avez un représentant dedans, point à l'ennemi.
Merci à vous, monsieur Didier Martial Pobondi. Justement, sur ce point précis, monsieur Albert Mbaya, on entend Addis Abeba n'a été qu'un conseil des ministres. Et pour vous, c'était une comédie toute faite, une calamité, c'était ça votre terme. Du coup, on peut dire aujourd'hui que Addis Abeba n'était pas un chemin obligé pour en arriver là.
Hippolyte, regardez, avec ce petit jeu qui se passe là, au moins on a l'occasion d'avoir une idée plus ou moins précise du profil des gens qui se trouvent en fait en face de la RCA, je dis cela. Une manière pour moi de répondre à une remarque faite par Maître Kokongo qui a fait allusion à la question de nationalité. Oui. Ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Il faudra qu'un jour, nous Centrafricains, qu'on s'oblige à identifier les gens qui ont la prétention de nous gérer. Moi je vous dirais plutôt que j'ai des informations. Quand à un moment donné, notre pays à travers le département de la sécurité publique s'est mis à vendre nos papiers aux étrangers, passeport, carte d'identité nationale, acte de naissance, on en a tellement vendu que des étrangers sont en train de nous gouverner.
Non, mais je ne suis pas d'accord.
Enfin, j'ouvre une parenthèse. Hein.
La nationalité est donnée avec le code de la nationalité, Maître Kokongo est là. Donc, si tu séjournes, même si tu te maries juste avec un centrafricain ou une centrafricaine, tu deviens centrafricain. Je pense que ce débat de nationalité est révolu.
Faites attention. Justement, c'est cette négligence royale qui a plongé.
C'est le respect du droit. Pour moi, c'est ça, en fait.
Non, s'il vous plaît. Entre le droit... Oui. Et nos réalités nationales, si demain...
Et réalité de droit au point d'affecter la souveraineté d'un État.
Lorsque les gens débarquent de nulle part, de Mars, de Jupiter, du Tchad, du Soudan, excusez-moi, ils viennent, bon, puisque le droit est là et qu'on leur donne la nationalité et que...
Vous allez dire quoi, Ramayad, à l'ancien Premier ministre qui est espagnol, qui est revenu dans son pays.
S'il vous plaît, permettez.
Ils sont arrivés par la rébellion.
Permettez.
Non, c'est autre chose, mais ça, c'est à nous de gérer ça,
Mais lorsque nos voisins qui nous aiment tant, je mets entre guillemets, débarque chez nous, un couteau entre les dents, nous égorge, viole nos femmes, pille nos biens. Moi, centrafricain, je dis.
Centrafricain ministre au Togo, il a étudié au grand séminaire.
Mais il n'a pas créé la rébellion là-bas.
Ça, c'est un autre débat.
C'est toute la différence. Donc, je veux dire que nous devons éviter cette naïveté qui nous a conduit pendant plus d'un demi-siècle, justement, à cette invasion dont nous sommes victimes aujourd'hui. Et moi, Albin Mbaya, je suis pour qu'on vérifie les identités de ces fameux chefs de rébellion qu'on met au gouvernement pour ne pas avoir des étrangers qui viennent nous commander chez nous, mais nom de Dieu.
Oui, là, merci, bon, monsieur Albert Mbaya. Vous prenez le problème de manière globale. Voilà. Ça pourra être traité au niveau de l'État, comme Martial l'a dit. Nous sommes dans un contexte où un gouvernement a été approuvé après un parcours qui a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Ces personnalités sont là aujourd'hui, occupent des postes de responsabilité. Comment faire ?
Je vous en prie. J'ai été rapporteur général du comité technique d'organisation du Forum national de Bangui. Et lorsque nous avons reçu ce qu'on appelle les rapports des consultations populaires à la base, nous avons été étonnés de la déclaration de certains habitants de Birao et de certains notables. Qui nous en dit ? Qu'ils ont été surpris de constater que ceux qui traversaient du Tchad pour arriver à Birao se rapprochaient de la mairie pour demander des actes de naissance, pour demander des certificats de nationalité, ils n'ont pas pu l'avoir à Birao. Il suffit pour peu que la personne puisse quitter Birao, se retrouver à Bangui. Un mois plus tard, cette personne-là va repartir à Birao avec un certificat de nationalité, avec un acte de naissance dûment signé à partir de Bangui. Et eux, ils ont été clairs que puisque eux, ils sont à la frontière, ils connaissent bien, ils savent bien qui est centrafricain et qui ne l'est pas. Et les étrangers traversent et eux, là-bas, ils refusent de leur donner la nationalité. Ils refusent éventuellement. Et curieusement, ces personnes-là arrivent à Bangui. Ils obtiennent l'acte de naissance à Bangui et le certificat de nationalité à Bangui. Ça rejoint exactement ce que M. Albert Mbaya était en train de dire. Donc il faudrait absolument que nous développions un peu de vigilance du côté vente de ces papiers parce que ce n'est pas normal que nos papiers puissent être trafiqués.
L'État est amorphe, l'État a des problèmes.
Et sur cette question précise, sur la nécessité ou non de ce déplacement à Addis Abeba qui, au finish, a cautionné justement la place des groupes armés qui peuvent aujourd'hui jouir d'une partie du pouvoir de l'État.
Hippolyte, nous sommes devant une crise morale. Il a fallu se déplacer à Addis pour essayer de calmer les ardeurs des gens qui, depuis 6 ans d'affilée, ont brûlé les villages de ce pays, ont brûlé récemment Alindao, immolé un abbé, violé des femmes, tué des femmes et enfants, éventré des femmes en grossesse. Il a fallu se rendre à Addis pour en fait brader notre conscience nationale et arracher la paix. Ça rappelle un peu l'histoire de la Sierra Leone où, à un moment donné, les gens étaient fatigués des crimes. Il a fallu composer avec tous les bandits, tous les bourreaux pour que la paix revienne. En fait, on peut considérer que l'État centrafricain s'est dit on y va, on brade pourvu que la paix revienne. C'est là le problème. L'histoire est en train de rattraper les politiques centrafricaines. Je rappelle que le président Touadéra a toujours prôné la fameuse politique de bras tendu. J'espère qu'il va l'évaluer maintenant.
Il faut passer de la main tendue au poste
russe. Voilà. La main tendue est en train de rattraper la RCA et j'espère que le chef de l'État va s'obliger à évaluer cette fameuse politique qui, en fait, est en train de lui voler son mandat. Il a déjà perdu 3 ans sur 5, il ne reste que 2. Et maintenant qu'il a les loups dans son salon, j'espère qu'il va s'en sortir. Mais en tout cas, je pense que là où on est arrivé, la RCA s'est sacrifiée. On n'aura peut-être plus de programme politique en tant que tel à suivre. On va être obligé de gérer des humeurs de ces rebelles, eux et leurs hommes sur le terrain. Et je suis convaincu
que le président Touadéra et son mandat vont être accaparés jusqu'à la fin par cette situation.
Un mandat accaparé, peut-être que lui-même il a accepté de le sacrifier au nom de la paix.
Mais pour obtenir quoi? La paix? Une paix qui est hypothétique parce que ces gens-là, il ne faut pas compter sur leur engagement.
Alors, de ces mêmes gens-là où ils étaient hier, hein, ces membres des groupes armés écartés du premier gouvernement, M. Daniel Zewé, mais ils sont aujourd'hui rappelés dans l'équipe actuelle, peut-être après moult acrobaties, on ne sait, on n'est jamais dans le secret des dieux, ou encore dans des messes de minuit, on sait que cela existe. Alors, peut-on toujours prendre au sérieux la vie politique en Centrafrique?
Écoutez, nous sommes en train de débattre de quelque chose qui nous peine. Pour un Centrafricain sérieux, la situation actuelle ne peut que créer en lui ce qu'on appelle la mélancolie.
La frustration.
La frustration. Parce que finalement, il faut absolument reconnaître que le président Touadéra a été élu sur la base d'un programme. Moi qui suis en train de vous parler, je fais partie des premiers ayant sacrifié de leur énergie, de leurs peu maigres moyens, pour courir dans tous les sens. Et je pense que ma modeste contribution a été donnée pour que le président Touadéra soit au pouvoir. C'est sur la base d'un programme. Et c'est un quinquennat. Ça veut dire que c'est 5 ans. Mais malheureusement, pour la gestion de ce quinquennat, au bout de 3 ans, perturbé, et voilà que les 2 dernières années, on vit de ce qu'on appelle une transition voilée. À la limite, ce n'est plus le programme du président Touadéra qui est en train d'être mis en place, mais nous sommes dictés de l'extérieur, c'est-à-dire de l'Union africaine, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aurais souhaité qu'on puisse adopter une posture. J'ai une admiration singulière pour la République démocratique du Congo. Une admiration singulière pour le président sortant. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et taper du poing sur la table et se dire, nous avons quand même un brindille, un peu d'honneur, un peu de dignité, un peu de valeur qu'il faudrait absolument défendre. Il faut apprendre au moins à décider dans ce pays. Lorsque il est question éventuellement de sortir tout le temps et de se laisser dicter ce genre de situation, je pense que ça nous emmènera très loin de l'objectif qui a été fixé. Et je pense que les 2 dernières années, comme a dit Albert Mbaya, les 2 dernières années devant nous, ça ne sera même pas 2 ans, mais 1 an et demi, et où tout ça a égrené, ça sera avec les humeurs qui vont être gérées. Aujourd'hui, nous avons le communiqué d'Abdoulaye Miskine. Ça veut dire tout simplement, l'intention d'Abdoulaye Miskine, c'est de dire, je me retire au profit d'un de mes éléments qui éventuellement devra être mis au gouvernement. On va gérer les humeurs. Et je vous informe encore.
On repart à Addis Abeba encore.
On repart à Addis Abeba encore. Et je vous informe
encore. Pour un poste ministériel, c'est ça, hein?
Je vous informe encore que ce n'est pas fini. Il y a bien d'autres postes dans certains départements, dans les mairies, dans les préfectures, dans les ambassades, etc. Et il a été décidé à Addis Abeba, même si ça n'a pas été dit haut et fort, que ça sera un chapelet de nomination. À partir de lundi, mardi, mercredi, les nominations vont tomber en désordre. Et ces groupes armés, ces éléments vont se retrouver dans nos ambassades. Ils vont se retrouver dans les préfectures. Ils vont se retrouver un peu partout. Mais où allons-nous?
Cette histoire vous révolte? Vous êtes en colère vis-à-vis
Je suis singulièrement révolté en tant que centrafricain. Parce que nous avons pris de notre temps pour aller étudier. Nous avons pris de notre temps pour nous battre sur les bancs de l'école. Et nous transmettons des valeurs à nos enfants. Et nous souhaiterons que nos enfants puissent transmettre aussi des valeurs à nos petits-enfants. Et aujourd'hui, les valeurs que nous sommes en train de transmettre, c'est-à-dire que l'exécutif, c'est-à-dire la tête, est en train de transmettre une valeur aux enfants qui voudrait dire tout simplement qu'il faut prendre les armes, il faut absolument barricader pour avoir une possibilité de vivre dans ce pays. Nous qui n'avons pas barricadé, qui n'avons pas pris les armes, où on se rend? Ça veut dire qu'on est en train de me pousser en tant qu'ancien leader étudiant, en tant que leader d'opinion, en tant que politique, de chercher à m'organiser pour barricader, pour prendre les armes, pour que d'ici demain je sois ministre. Autrement dit, je ne serai jamais ministre dans ce pays.
Là où il ne fallait pas en arriver.
Voilà.
Merci à vous, M.
Voilà l'éducation qu'on transmet aujourd'hui.
Merci, M. Didier Martial Pabandi. Aujourd'hui, de 36 membres dans la précédente équipe, l'effectif est aujourd'hui renforcé avec 3 postes supplémentaires. Nous passons à 39 membres dans un gouvernement, c'est une quarantaine déjà, et M. Nsewe vient de le dire, vous l'avez suivi, des nominations vont suivre. Le budget centrafricain permettra-t-il de supporter ces nouvelles implications-là financières et afférentes?
Alors Hippolyte, je pense que ça c'est la plus grosse des difficultés, parce que passer de 36 ministres à 39 implique de nouveaux achats de véhicules, de la construction de nouveaux cabinets. Mais encore, là où très peu de gens en ont parlé, c'est que l'accord de Khartoum peut coûter entre 3 et 10 milliards à l'État sud-africain. Je m'explique très rapidement. Vous avez vu, il fallait mettre en place ce qu'ils appellent les campagnes
de sensibilisation, voilà, des éléments sur le terrain.
Exactement. Et les patrouilles, parce que les patrouilles, les il faut du carburant, il faut les PGA, il faut tout ceci. Donc, tous ces éléments, vous lisez l'accord. Et moi, j'attendais un peu, en fait, le ministère des Finances au tournant pour nous dire combien va nous coûter réellement l'accord de Khartoum. Je n'ai pas encore les résultats. Mais je sais que il avait été décaissé environ 500 millions de la caisse de l'État pour Khartoum. Pour Addis Abeba, je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. Peut-être que j'aurai les informations dans les prochains jours. Ça, c'est de un. De deux, en augmentant le nombre des ministres, évidemment, on va augmenter les cabinets, on va augmenter le nombre des hors-statuts. C'est comme ça qu'on les appelle. Absolument. Ça dit que les hors-statuts vont prendre la place des gens qu'on devait intégrer, des jeunes qui devraient venir. Voilà. Ça fragilise énormément l'administration. En fait, l'accord de Khartoum et d'Addis Abeba, si je peux appeler comme ça, ont deux conséquences néfastes sur l'État sud-africain, d'abord au niveau financier et au niveau administratif. Moi, ma peur, c'est quoi? On parle d'augmentation des dépenses de l'État, mais il n'y a pas d'augmentation des recettes, puisque les zones sont entièrement contrôlées par ces messieurs qui prélèvent les taxes, qui récoltent les ors et diamants. Et aujourd'hui, la douane fait à peu près 4,7 milliards de recettes par mois et les impôts. Donc, au total, on est à environ 8 milliards de recettes. Mais ça ne peut pas couvrir les dépenses de l'État. C'est un véritable problème, alors que nous sommes toujours encore en train d'être aidés par la communauté internationale. Donc, cette question, c'est encore un autre problème, je ne sais pas. C'est juste deux mots. Moi, je suis très inquiet aujourd'hui. Je crois, comme beaucoup de Centrafricains, sur la marche que nous sommes en train de suivre pour notre survie et pour notre existence. Parce que j'avais entendu plusieurs fois les discours de notre chef de l'État qui disait que nous sommes sur la bonne voie. Mais là, je me demande si vraiment nous y sommes toujours. Ou parce que là, au départ, oui, c'est vrai, on n'entendait pas beaucoup parler des groupes armés. Aujourd'hui, les groupes armés ont, et Hippolyte, encore l'autre dépense, c'est l'énergie que l'État consacre suffisamment aux groupes armés.
Je disais déjà dans mon émission précédente que la République respire au rythme des groupes armés.
Donc, nous ne pouvons pas travailler. Les gens ne peuvent pas travailler. Les gens sont fatigués à ne rien faire.
Maître Timolé Kongo, nous vous avons suivi aujourd'hui. C'est vrai que vous avez insisté sur le cadre juridique de cet accord-là qui nous a mené à Khartoum et hier à Addis Abeba. Cela a été fait de cette manière-là. Oui. Et aujourd'hui, on est obligé d'accepter ce gouvernement. Oui. Mais maintenant que cela génère des conséquences qui inquiètent, oui, est-ce qu'on va toujours donner raison à ce cadre juridique?
Bon, le cadre juridique, il n'y a rien sans le droit. C'est le meilleur moyen d'agir dans la vie, je pense, et dans le cadre d'un état de droit. On le dit bien, état de droit. Oui. Et je dis, la réalité, c'est que c'est nous, Centrafricains, qui prenons des armes, c'est nous, Centrafricains, qui mettons notre pays à terre. Certainement, il y a des puissances étrangères qui sont derrière, certainement, qui financent, qui ont leurs intérêts, mais ils passent par nous, Centrafricains, pour devoir obtenir tout ce qui s'obtient sur le terrain. Non, n'en déplaise à qui le veuille, on peut dire tout ce qu'on pense, mais moi je dis, on est tenu par la réalité des choses. Okay. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas la paix. Effectivement, il y a des parents qui meurent, il y a des villages qui sont incendiés, il y a des violences qui sont commises sur la population. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les armes circulent.
Et c'est ça,
qu'est-ce
l'état
qu'on doit
de
faire
droit.
Écoutez, je dis, dans un état de droit, quand on veut une solution, ou alors vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire la guerre, si vous voulez que le chef de l'État fasse la guerre, allons la guerre. Je rappelle, hein, à cet égard, qu'il y a 8 ans, 9 ans, on avait dit ça à François Bozizé. Bozizé était général d'armée. Il avait une armée FACA qui était en place. On lui a dit, allez à la guerre, à la guerre. La rébellion progressait. Ils sont arrivés à Bambari, ils sont arrivés à Sibut, ils sont arrivés à Damara. Bozizé a voulu faire la guerre et a engagé les Sud-Africains. Et finalement, et c'est la suite. Et aujourd'hui, on veut dire que non, il faut livrer la guerre. Parce que, alors, cette guerre-là, on veut bien, on dit, oui, les FACA ont des armes, il faut leur donner des armes, il faut que la MINUSCA... La guerre a prouvé aussi ses limites. Et cette option juridique, d'accord, de traitement juridique de la situation...
Maître, mais quelle pression on met sur ces...
Oui, mais c'est ça. Je venais de le dire. C'est écrit dans l'accord que la MINUSCA sert d'organe de pression. Et j'ai dit ce qui s'est passé dans le corridor avec les éléments de la MINUSCA. Ça, je l'ai condamné. J'ai dit, mais la MINUSCA n'a pas joué son rôle. La MINUSCA n'a pas réagi. Et ça, je l'ai dit et je l'ai souligné. C'est normal.
Et nous sommes dans un état de droit.
Alors, moi, je dis une chose.
Restons justement...
Dans le cadre de la... Non, l'accord vaut toujours. Et nous sommes obligés de travailler avec cet accord, mais je dis, moi, je suis serein. Tout ce qui se dit ici, les gens sont nommés, On doit arriver au désarmement, à ce que ces gens lâchent les armes, qu'on ramasse les armes, qu'il y ait le désarmement. Moi, au fond de tout ça, moi, je vois, et je suis avocat, je suis à la justice, je vois la CPS qui se met en place. Les structures se mettent en place. Je vois la CPI qui renforce sa structure à Bangui. Et je vois la CPS. La justice va toujours finir par rattraper, mais pour y arriver, moi, je pense que ces gens qui ne se fassent pas des illusions, qu'ils soient ministres, qu'ils soient qui que ce soit dans ce pays, le jour où il n'y aura plus les armes, il n'y aura plus les armes seront ramassées. On peut donner tous les gages, donner, sacrifier. Et je crois que c'est dans cette idée-là que le chef de l'État progresse et que la communauté internationale a refusé l'amnistie à Khartoum. La communauté internationale, on a lu le communiqué des rebelles. Ce n'a pas été le cas. Ils ont demandé la démission de Grébada. On ne leur a pas donné. Il y a des choses qu'on ne donne plus aux rebelles. Mais on est en train, si vous voulez, oui, appâtons-les. Amenons-les au gouvernement, qu'ils viennent. Vous voyez, Miskine, il est plus malin parce qu'il sait très bien que s'il vient au gouvernement, c'est presque l'humiliation parce qu'on a créé un ministère spécial un peu pour lui. Et moi, là-dessus, je rebondis. Je dis non. Est-ce que 39 postes, est-ce que... Non, je pense qu'il y a des ministères qui ont été scindés. Ça a toujours été comme ça. Il y a des ministères qui ont été scindés. Il y a très peu de ministères qui ont été créés de toutes pièces, comme celui d'Abdoulaye Miskine.
Mais 39, ce n'est pas exagéré quand même.
Non, mais ce sont des ministères qui sont scindés. Ce sont des choses, des structures qui existent.
Est-ce que c'est nécessaire d'en arriver là?
Bon, pour au moins satisfaire, donner, si vous voulez, donner la place, que les gens viennent, s'asseyent.
Quand on arrive. Il y a 4 ministères pour l'enseignement, pour l'éducation
nationale. Voilà, c'est scindé en 4.
Ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Ministère de l'enseignement supérieur. Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Ministère de l'enseignement technique et de la fabrication. 4 ministères, tout ça.
Si vous prenez un autre décret, ces 4 ministères étaient en 2.
Oui,
maintenant, on a scindé en 4.
Alors, justement, je reste avec vous.
On n'a pas créé des charges.
Tout à l'heure, pourquoi ne pas mettre le ministère des chargés des victimes?
Pour contenter les gens, pour que les gens qui veulent être
ministère chargé des victimes, on met rebelle là-dessus.
Et comme les victimes n'ont pas d'armes,
on ne peut pas créer. C'est ça le
ministère chargé des victimes et de la cohésion.
Mais je reste avec Maître Kokongo, si vous permettez.
Je vous écoute.
Vous disiez tout à l'heure que l'accord vaut et il reste toujours
d'actualité.
S'il vous plaît. Cet accord de Khartoum, en son chapitre 3, alinéa D, exige la dissolution de tous les groupes armés. Mais bizarrement, on remarque dans l'actuelle configuration que le gouvernement Grébada II consacre un portefeuille aux groupes armés, finalement.
Non.
N'y a-t-il pas paradoxe?
Il y a un chronogramme à l'accord.
Okay.
On doit mettre en place un gouvernement inclusif. Bon, maintenant, c'est peut-être la dénomination de ce département. Ça pose aussi le problème. Le libellé pose aussi le problème. Ça, je l'admets. Mais je dis, il y a un chronogramme. Il y a un gouvernement inclusif qui doit être... Et on est sur ce gouvernement inclusif. On l'a mis en place, ça a été contesté. Les mécanismes prévoient que quand il y a contestation, pas de violence, pas d'agression, mais on repart aux négociations. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, on a en place un gouvernement inclusif, j'espère, qui va contenter tout le monde et les gens vont se mettre au travail. Maintenant, dans une seconde phase, maintenant, il va y avoir un processus de désarmement et maintenant de démobilisation et de dislocation
oui,
de
ces groupes armés. Mais c'était quoi la nécessité de créer ce portefeuille-là dédié aux groupes armés
pour,
du moment où on sait que bientôt, le DDR, ils doivent
cesser d'exister. Ça, c'est la forme, ça, c'est le contenant. Mais maintenant, dans le contenu, quelle est la mission? Quelles sont les attributions de ce ministère? J'attends pour le voir. Peut-être que c'est pour aider au désarmement, c'est pour aider à la dislocation de ces groupes armés. On n'a pas dit c'est pour... Là, vous comprenez ça comme renforcement des groupes armés, c'est faux. Non, moi, je ne pense pas qu'on ne peut pas créer un ministère pour renforcer les groupes armés. Non, là on est en train d'aller à l'envers des choses. On ne peut pas créer un ministère pour renforcer les groupes armés.
Merci, mais les termes, peut-être que...
Peut-être les termes, mais on ne peut pas...
Peut-être que, monsieur...
Ça, c'est le contenant.
Oui, maître, on vous a suivi. Peut-être que monsieur Daniel Nzewe a un avis contraire.
Une lecture pour précision. Daniel, tu me permets. Vraiment, j'arrache parce que là, c'est le seul ministère qui pose énormément de problèmes à tous les Centrafricains, moi y compris. On ne peut pas dire ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec les groupes armés. Le terme est clair, même pas de lutte contre les groupes armés. Ministre délégué auprès du Premier ministre, chef du gouvernement chargé des relations avec les groupes armés. C'est-à-dire une relation, elle est pérenne. C'est comme une relation diplomatique, une relation politique, administrative. Non, maître, je ne suis pas d'accord du tout. Ce ministère doit être complètement élagué de ce gouvernement. Ça, c'est un avis parce que les groupes armés, ils vont continuer à exister parce que s'ils n'existent pas, c'est un quiproquo. En fait, c'est une antinomie. On ne peut pas dire dissoudre les groupes armés et mettre un ministère pour charger des relations avec ces groupes armés. Mais s'ils disparaissent, mais quelle relation vont entretenir?
Mais non, ils n'ont pas encore disparu, c'est ça la réalité. Ils
sont
encore
là. Mais l'accord est clair.
Donc le gouvernement,
l'accord de Khartoum exige qu'ils disparaissent.
Sous 90 jours. 90 jours.
Je vous en prie.
90 jours.
J'ai la parole.
Oui, nous écoutons ce Daniel Zewé sur la question.
Je voudrais dire tout simplement, les recommandations du forum de Bangui ne sont pas des recommandations désuètes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, et je pèse mes mots, même le président de la République, dans tous ses discours, entre guillemets, vous constaterez que le chef de l'État prend pour référence les recommandations du Forum national de Bangui. Avant le départ sur Khartoum, le chef de l'État a promis au peuple qu'il n'ira pas à l'encontre des recommandations du Forum national de Bangui, qui est une volonté du peuple centrafricain, et qu'il n'ira pas contre la Constitution.
Est-ce que, monsieur Nzewe, vous pouvez juste répondre à la question sur ce que moi je trouve de paradoxe entre l'exigence de l'accord de Khartoum qui voudrait que les groupes armés soient dissous et la nomination ou encore la création d'un poste ministériel consacré à ces groupes en question?
Vous savez, chez nous les mathématiciens, le premier chapitre que nous faisons lorsque vous rentrez en première année de maths physique, le premier chapitre d'algèbre, on appelle ça logique et mathématique. Si on revient dans le texte, c'est-à-dire dans cet accord de Khartoum, nous allons constater qu'il y a ce qu'on appelle des brigades mixtes qui doivent être mises en place, c'est-à-dire des patrouilles mixtes, composées et des groupes armés, composées en même temps de ce qu'on appelle l'armée régulière.
FSI.
Les forces de défense et de sécurité.
Appuyées par la MINUSCA.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ces groupes armés sont appelés à disparaître au bout de 90 jours. À partir de ce moment.
En principe.
En principe. Ça, les textes sont clairs. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de contre-vérités.
Oui, il y a encore des écueils.
Voilà, il y a beaucoup de contre-vérités dans cet accord de Khartoum. Le fait que, vous savez, cet accord de Khartoum.
Non, mais Daniel, juste une parenthèse.
Oui.
Les patrouilles mixtes, en fait, c'est par rapport aux démobilisés, pas à ceux qui sont encore dans les groupes armés. Juste une précision. Les patrouilles seront faites par les démobilisés en fait des groupes armés, ceux qui ont déjà quitté et qui ont intégré en fait
Non. Les patrouilles seront faites, c'est-à-dire que nous avons 14 groupes armés qui sont astreints à cette obligation de procéder à la désignation de ceux qui doivent les représenter pour procéder aux patrouilles.
Justement, ce sont ceux-là qui vont recevoir une formation.
Qui vont recevoir une formation.
C'est ça la démobilisation.
Voilà, exactement.
Ils doivent être démobilisés.
Et réintégrer une force, en fait.
Bien sûr.
Et les patrouilles se font éventuellement pour protéger les cultivateurs, protéger les éleveurs, etc. Maintenant, lorsque vous regardez cet accord, l'accord est rempli de contre-vérités. Et vous savez, cet accord a été, n'est-ce pas, un copier-coller du rapport, c'est-à-dire de cet accord-là qui a été signé au niveau du Mali. Ça, c'est l'accord du Mali qui a été copié textuellement.
J'ai ça, mais je n'ai pas encore vu l'accord.
Moi, j'ai l'accord du Mali. Je peux vous transmettre ça dans votre boîte.
Oui.
C'est l'accord du Mali qui a été récupéré tranquillement. L'accord du Mali qui a été signé en 2015. Cet accord-là a été récupéré tranquillement, puisque c'est la MINUSCA. Puisque le système des Nations Unies, c'est le système des Nations Unies, eux ils ont l'habitude tout simplement d'avoir un canevas de travail, ils ont récupéré tout simplement ce canevas pour transmettre et faire tout simplement du racolement, c'est un copier-coller. C'est
pourtant ça n'a pas solutionné le problème au Mali.
Pourtant, malheureusement, ça n'a pas solutionné le problème au Mali. Et on va nous ramener tout simplement cet accord du Mali. Je vais vous transmettre ça tout à l'heure dans votre boîte. Vous allez constater malheureusement vous avez cet accord. Donc voilà la triste réalité.
Merci à vous. Nous allons donc terminer ce débat avec vous, monsieur Albert Mbaya. Aujourd'hui, certains partis politiques qui avaient retiré leurs membres du précédent gouvernement ne sont pas revenus aux affaires, n'est-ce pas? Un autre motif de frustration, je pose la question parce que peut-être qu'il y a des étincelles en l'air. Quelles pourraient en être les conséquences?
Le citoyen centrafricain que je suis a pris son temps pour parcourir la liste de ce nouveau paquebot là. Parce que on est à 39. Je pense que
de la calamité au paquebot.
Si demain il y a de la contestation, peut-être on passera à 50 et ensuite à 90. C'est pas impossible en RCA. Et en fait, j'ai constaté que les partis politiques n'étaient pas au rendez-vous.
Mais encore la société civile.
Voilà. Certaines gens peuvent penser que qu'ils ont été laissés sur la touche ou ce serait peut-être les perdants. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Bien au contraire, il me semble que c'est même mieux que les partis politiques n'aient pas été mêlés à cette calamiteuse situation. Parce que vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir, ni ce que ces nouveaux venus vont fabriquer comme problème demain. Et donc, je pense qu'il faut laisser le premier ministre Ngrébada, qui a pris ce risque, Mais de travailler, mais si...
Pas à seul, peut-être si... sous la pression aussi en dégrippe de la communauté internationale.
Il y a beaucoup de politique dedans.
Vous savez, l'Union africaine qui plutôt échoué partout, tiens à ce que ça marche dans le cadre de la RCA pour donner au moins quelques preuves qu'elle sert à quelque chose. Mais regardez, moi je crois que je parle des grands partis politiques, pas de la pléthore qui nous encombre dans la ville de Bangui, mais je parle des partis politiques qui ont assises, qui sont connus, qui ont des députés à l'Assemblée, c'est ceux-là que moi je prends en compte. Mais les fretins qui se promènent à gauche, à droite, qui prennent des strapontins, il faut pouvoir s'en occuper. Mais je pense que les partis politiques à ce civil, s'ils ne sont pas représentés ici, ce n'est pas en tout cas un mal en soi, qui reste à côté et qu'on observe ces rebelles qui ont le don de transformer les choses comme par coup de baguette magique, mais qu'ils fassent leurs preuves. Ils ont intérêt à ne pas échouer. Et donc, c'est mieux que les partis politiques à ce civil restent sur la touche et qu'on laisse cette équipe-là faire ses preuves. Et demain, on va évaluer. Dans tous les cas,
oui, nous avons...
on ne peut pas... S'ils ne sont pas dans ce gouvernement, ce n'est pas la fin du monde. Plus tard, ils pourront, dans un environnement serein, plus respectable, travailler plutôt que de prendre le risque d'aller et peut-être d'échouer avec ces gens-là.
Nous avons un politique autour de la table, nous terminons avec lui, Maître Kokombo.
Oui. Quand on dit parti politique, c'est une manière de parler. Et certainement, il y a des politiques. Peut-être le cœur uni est dedans.
Il y a UNDP, il y a quand même beaucoup de partis politiques.
C'est l'opposition.
MLPC.
Oui, l'opposition peut-être dure, n'est pas dedans, puisque, en fait, vous le dites, ils ont démissionné. On les avait désignés, ils ont préféré démissionner. Alors, on nous dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On les a désignés, ils ont préféré démissionner, on ne les a pas fait appel. Mais je pense, ça participe un peu de l'autre question où maintenant nous avons des diplômes, des parcours académiques, et puis on préfère passer par l'exemple. Aujourd'hui, la crainte aussi, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'est un peu... ça, c'est l'Union africaine et les Nations unies qui ont opté pour cette ligne. Parce que dès le départ, on leur avait dit, ce dialogue-là, on veut que tout le monde soit... Le gouvernement même force la porte a fait débarquer à Khartoum une pléthore de participants. Tous ces gens ont été mis en quarantaine. À huis clos, les dialogues étaient groupement armé et gouvernement. Point barre. Tous ces gens
sont
allés faire de la villégiature pure et simple à Khartoum et sont revenus sans rien dire. Ils auraient pu protester, faire un écrit. Personne n'a rien dit. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est de un. Maintenant, de deux, maintenant, on est en train de laisser, d'enlever la matière aux professionnels. Absolument. La politique, c'est l'art des professionnels. C'est des partis politiques qui ont fait un parcours. Mm-hmm. Heureusement, aujourd'hui, on prend des groupes armés, on enlève. Bon, heureusement que, comme nous le disons, il y a le pouvoir qui est là et puis qui encadre un peu. Mais mettre dehors comme ça, sous prétexte que l'opposition, effectivement, a démissionné, a retiré ces gars, on les écarte, la société civile, c'est une chose. Mais le risque, c'est effectivement ça, c'est que demain, je ne sais pas, est-ce que demain, les partis politiques vont dire non, on n'était pas mêlés, nous, on va... Non, je ne pense pas. Il faudrait, dans un État, on doit impliquer tout le monde. C'est un gouvernement inclusif. Inclusif, on devrait...
Je suis entièrement d'accord parce que les partis politiques ont échoué pendant les élections.
Non.
S'il vous plaît, juste...
C'est une génération de partis politiques, s'il vous plaît.
Juste 10 secondes. Moi, je n'ai pas aimé en 2016, quand Touadéra a gagné,
au moins
20 hommes politiques ont suivi ce monsieur en adhérant... Oui, mais en embarquant son parti. Oui. Donc moi ce que je vais dire aujourd'hui c'est quoi? C'est que c'est un dialogue gouvernement et parti politique. C'est le régime de Touadéra avec son projet de société qui a décidé ainsi, qui veut le faire. Donc si les partis politiques qui ont été invités gracieusement de venir participer à ce gouvernement qui ne veulent pas, c'est leur problème. Ils repartent dans leur opposition, ils font leur truc, c'est tout. Pour moi, je crois qu'on doit respecter le cadre légal, maître. Ça, c'est vous êtes dans l'opposition, vous restez dans l'opposition. Le gouvernement a choisi de mettre le groupe armé dans son truc.
Il y a quand même une crainte justifiée. Quand on quitte le domaine du professionnel pour l'amateurisme, il y a quand même une crainte qui est justifiée.
Ça, c'est le choix du président qui a été élu par le peuple.
C'est pas son choix. Peut-être que vous élaguez l'aspect communautaire international. Il y a quand même une pression qui pèse.
Le cadre légal, c'est l'accord de Khartoum. Et l'accord de Khartoum parle de gouvernement inclusif. Société civile, opposition.
Mais ça marche
et puis
pas.
Groupe... Non,
comment on peut parler de négociations gouvernement, groupes armés et on parle de gouvernement encore inclusif?
C'est dans l'accord.
Un gouvernement
Hommes rebelles. Groupes armés. C'est un gouvernement, groupes armés, il faut le savoir.
Fais changer l'accord après alors. Quelques...
Ben non, c'est pas moi. C'est... L'accord là, c'est. Comme on a dit, il y a trop de mélange, trop de cacahuètes dedans. Donc après, voilà.
Écoutez, le cadre légal, c'est l'accord.
Je vais rebondir très rapidement dessus.
Peut-être en 5 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on a largement dépassé l'heure de. Le temps.
Je rebondis rapidement dessus. C'est-à-dire que ce que Martial Pabandi a dit n'est pas aussi mauvais. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez, par exemple, aux États-Unis, vous avez les démocrates, vous avez les républicains en campagne. Lorsque les démocrates prennent le pouvoir...
Ça, c'est un cadre normal.
Voilà. Hein. Lorsque les démocrates prennent le pouvoir, les démocrates exercent éventuellement le pouvoir sans pour autant que les républicains puissent dire, bon, ben, on veut être au gouvernement.
C'est géré même de leurs affaires.
Maintenant, en République centrafricaine, nous avons deux grands courants. Nous avons le président Touadéra, nous avons entre-temps Dologuele. Le président Touadéra a gagné les élections, donc il a le droit éventuellement de constituer son gouvernement et d'acheminer correctement. S'il veut associer X ou Y, il le fait. Mais maintenant, nous sommes dans un cadre où je soutiens la thèse selon laquelle c'est même mieux de ne pas intégrer, n'est-ce pas, les partis politiques, de les laisser à part et de laisser maintenant les groupes armés avec l'exécutif en présence pour qu'ils puissent éventuellement aller jusqu'au bout.
Merci.
Et moi, j'ai une crainte, il ne faudrait pas que le président Touadéra tombe dans un piège. Nous avons plus d'une douzaine des hommes armés, c'est-à-dire des groupes, des représentants des groupes armés, lors des futurs conseils de ministres, il faudrait que le président Touadéra soit prudent. Parce que c'est des gens qui peuvent dissimuler des armes dans leurs habits et rentrer avec ça en conseil de ministres. Ça, c'est des choses très importantes qu'il faut également regarder.
Oui, peut-être la sécurité à ne pas négliger.
Voilà. Merci à vous, M. Daniel Zewé. Fin de ce débat Patara sur Radio Ndekelo, qui, je le rappelle, a été consacré au décryptage du nouveau gouvernement de Firmin Kribada, un gouvernement dit inclusif dévoilé vendredi soir à Bangui. Merci à tous nos invités ici présents. Merci aux auditeurs. L'émission Patara, c'est tous les samedis sur Radio Ndekelo en rediffusion dimanche. Guy Rémi Amendinji, la technique, Hippolyte Marbois, l'animation vous donne rendez-vous à samedi prochain pour une autre thématique.